Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Cette semaine, l'envie de savoir vous entraîne au cœur de l'Amérique centrale, au sein de la civilisation Maya. Alors vous connaissez leurs pyramides, leurs calendriers, mais les Mayas ont surtout bâti, sur près de 2 millénaires, un monde de cités dynastiques et de réseaux d'influence d'une remarquable complexité. Grâce aux avancées de la recherche, et notamment à un outil d'imagerie très sophistiqué, le LIDAR, les archéologues redécouvrent aujourd'hui l'ampleur de ces paysages urbains et les formes d'autorité qui les structuraient. Pour éclairer ces découvertes et leur portée, nous sommes avec Dominique Michelet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, spécialiste évidemment de la civilisation Maya et directeur de recherche au CNRS. Alors avant de commencer, quelques petites précisions sur les Mayas, à ne pas confondre avec les civilisations Inca ou Aztèques, qui sont les autres grandes civilisations les plus connues en Amérique. Elles se développent pas du tout, ces trois civilisations, dans les mêmes régions ou à la même époque. Ce qui va caractériser les Mayas, notamment, c'est que c'est la civilisation qui s'est le plus étendue dans le temps.
Pas forcément, c'est-à-dire que pour qualifier de Maya des populations qui habitent un territoire, il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup d'éléments. Mmh. Et ces éléments chez les Mayas, à partir du moment où on les réfère à ce qu'ils ont produit de plus spectaculaire, c'est-à-dire les grands sites du premier millénaire de notre ère, bon, mais ces Mayas-là, on remonte à peu près à 1000, 1500 ans avant Jésus-Christ. Il y avait déjà des gens dans cette région-là avant, mais de là à dire que c'était les futurs Mayas, c'est pas tout à fait sûr. La linguistique nous aide un peu parce que on sait qu'ils appartiennent à une famille linguistique et qu'il y a d'autres groupes qui se sont installés ailleurs dans cette partie-là du continent. Et on peut décider de quand ces groupes se divisent entre eux et quand ceux qui vont occuper la zone Maya se séparent des autres. Alors, on pourrait dire que certainement vers 2000 avant Jésus-Christ, ces populations-là, en tant que locuteurs d'un ensemble de langues qui vont devenir les langues mayas, s'installent dans la zone où on les connaît.
Alors, pour bien situer cette zone du continent américain, les Mayas, eux, ils occupent le sud-est du Mexique, tout le Guatemala actuel et le Belize, et aussi une petite partie du Honduras et du Salvador. Donc, c'est vraiment un territoire franchement très large.
C'est une identité extrêmement complexe. Quand les Espagnols arrivent, il y a au moins 30 langues mayas différentes. Et je ne parle pas de dialecte, je parle de langue en réalité. Donc, c'est un groupe complexe, varié, mais avec beaucoup d'éléments communs.
Alors la civilisation maya est ce qu'on appelle une civilisation précolombienne. Ça renvoie à toutes les civilisations développées donc avant l'arrivée de Christophe Colomb. Toutes ces civilisations précolombiennes ont commencé à disparaître avec l'arrivée des Européens.
Pour les Mayas, il faut quand même se dire une chose. Il y a un livre qui vient d'être publié en France au mois de mars dernier, qui est d'une jeune collègue de notre laboratoire, Chloé Andrieux, qui dit non, les Mayas n'ont pas disparu. C'est publié chez Alary. Et aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de personnes qui parlent des langues mayas encore. Et quand les Espagnols étaient là, à l'époque coloniale, ces populations ont su maintenir un certain nombre de leurs traditions. Et aujourd'hui encore, il y a pas mal de, par exemple, de croyances, de rites et de façons de se comporter qui sont spécifiquement mayas.
Alors, vous, sur l'apogée de cette civilisation maya, vous situez celui-ci entre 300 et 900 ?
Alors, c'est pas moi, bien entendu, c'est à force de travail. On s'est bien rendu compte qu'il y avait eu effectivement un moment exceptionnel de réalisation, de grande réalisation. Parce que quand on parle de population archéologique, il faut qu'on s'appuie sur quelque chose et les plus grands vestiges qui nous sont parvenus, en tout cas les plus nombreux, concernent justement cette tranche de 6 siècles à peu près, entre 300 et 900, qu'on appelle l'époque classique. Ce qui précède, ça va être le pré-classique, ça prépare ce qui suit, et puis ensuite, c'est le post-classique. Le post-classique, c'est pas du tout une décadence, de toute façon, c'est simplement un réajustement, une réorientation des choses, avec de nouvelles régions qui sont occupées, et qui sont plus occupées que d'anciennes, qui, elles, sont relativement abandonnés.
Alors, qu'est-ce qui caractérise cette période classique en particulier ?
Quand on l'a défini la première fois, ce qui était effectivement tout à fait central, ça a été la présence d'une écriture.
Ouais.
À un moment donné, les Mayas inventent une façon de transcrire hiéroglyphiquement les paroles et un certain nombre de témoignages. Et durant ces 6 siècles, on va utiliser beaucoup l'écriture. L'écriture, c'est aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances, à peu près 10 000 inscriptions. Mmh. Donc, c'est une quantité de textes pas extraordinaire par rapport à d'autres parties du monde, mais malgré tout, qui est très riche et qui nous permet de suivre beaucoup de choses. Donc, au départ de l'époque classique, nous avons une espèce de généralisation de l'écriture. L'écriture a été mise au point antérieurement, on peut dire que vers 200-300 avant Jésus-Christ,
il y avait déjà des
premiers essais, mais en 300 après, là, beaucoup de populations dans cette partie-là commencent réellement à utiliser systématiquement l'écriture.
Et j'imagine que la découverte de cette écriture-là renseigne beaucoup sur l'organisation politique, spatiale.
Les premiers à s'interroger sur ce que comportait cette écriture et ce que ça voulait dire en réalité, ça remonte évidemment au XIXe siècle. Et à ce moment-là, on se rend compte d'un certain nombre de choses, en particulier très tôt, ce qui a été parfaitement vu, c'est qu'il y avait des datations. Et que dans ces inscriptions, il y avait la mention de beaucoup de dates. Et on est rentré dans le système de numérisation effectivement du temps utilisé et mis au point en réalité par les Mayas. Et puis on a progressé, on a vu un certain nombre d'éléments de plus en plus nombreux qui concernaient en particulier des croyances, peut-être des rites aussi, mais on a eu un grand tournant en ce qui concerne en tout cas l'organisation sociopolitique de ces populations aux alentours de la fin des années 50, début des années 60. Et à ce moment-là, un certain nombre de collègues, bon, il y avait un Allemand, Heinrich Berlin, il y avait une Américaine, Tatiana Proskouriakov, en particulier pour citer deux des plus importants, sur le plan de l'organisation politique, qui ont mis le doigt sur l'existence de choses extrêmement intéressantes et qui, Tatiana Proskouriakov en particulier, a bien montré très vite que le gros des inscriptions qui nous sont parvenues sont des inscriptions à caractère politique. Elle s'est rendue compte que ce que nous racontaient ces textes-là concernait des individus qui n'étaient pas n'importe qui, mais qui étaient des dirigeants en réalité. Elle s'est rendue compte qu'il y avait des répétitions de dates, que ces dates-là apparemment allaient avec certains verbes qui désignaient certaines actions, par exemple le fait de naître, le fait d'accéder au pouvoir, le fait de faire la guerre. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles elle a mis le doigt assez tôt. Mmh. Et en parallèle, nous avions un collègue, donc Heinrich Berlin, qui lui s'est rendu compte qu'il y avait un glyphe, en tout cas, qui avait l'air d'être très localisé et beaucoup de régions, beaucoup de lieux, beaucoup de sites, finalement, utilisaient une formule un peu du même genre, construite, en tout cas avec des affixes et une partie centrale de la même façon. Et il a proposé de considérer que c'était des glyphes emblèmes et que ces glyphes emblèmes désignaient les cités les plus importantes, celles qui avaient été des capitales de telle ou telle région en particulier.
Le glyphe, c'est l'inscription ?
C'est l'inscription, c'est un cartouche avec éventuellement des adjonctions qu'on appelle des affixes, ça peut être des préfixes ou des suffixes, mais ça tourne autour d'une partie centrale et cela, on peut le lire et on s'est rendu compte à partir de la composition très systématique de ces glyphes emblèmes qu'ils étaient typiques de certains lieux particuliers. Et est venue l'idée, l'hypothèse qui se serait agi finalement de désignation des capitales. En réalité, on sait aujourd'hui que ce ne sont pas du tout des glyphes géographiques, ce ne sont pas les noms géographiques, mais que ce sont les noms des dynasties qui étaient au pouvoir. D'ailleurs, le glyphe lui-même va avec, effectivement, des affixes qui désignent le fait d'être dirigeant dans une certaine région. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on a un glyphe emblème de la dynastie, par exemple, de la chauve-souris, ou d'autres éléments essentiels qui désignent un lieu bien précis et son territoire, bien entendu.
Et sa dynastie. En fait, ces glyphes, on peut dire que ce sont un peu comme des blasons, on peut dire ça comme ça ?
Si vous voulez, à condition de bien considérer que ça se réfère plutôt à la famille grégnante, aux dynasties, plus qu'à un lieu spécifique.
Alors, en parlant de dynastie, comment fonctionne le système politique? Qui gouverne chez les Mayas? Comment ça fonctionne?
Alors, on s'est rendu compte, justement, donc à travers l'épigraphie, mais aussi l'iconographie, parce qu'on a beaucoup de représentations d'individus qui sont sculptés, en général, dans des pierres calcaires de ce secteur, des représentations de personnages importants. Ils sont représentés de différentes façons. Ils sont représentés en majesté, bien souvent. Ils sont représentés comme des gens qui soumettent d'autres populations. Par exemple, vous avez un personnage debout avec à ses pieds un captif, ça a a priori un sens politique, sens militaire d'avoir ce type de représentation, et on en a beaucoup. Ils sont représentés, quand il n'y a pas le captif, simplement avec une arme. Ça arrive assez souvent que ces personnages importants, qui occupent des positions centrales dans le décor, soit extérieurs aux structures, soit comme partie prenante même de l'édifice. Par exemple, un jambage, vous pouvez parfaitement avoir sur un jambage d'une porte la représentation d'un personnage important avec une arme. Bon, ils sont représentés comme aussi réalisant des rites. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, les gens qui ont le pouvoir, les gens qui dirigent, finalement les seigneurs de ces différentes entités, sont fondamentalement, à la fois éventuellement des guerriers, mais aussi et surtout peut-être des intermédiaires entre la population sur laquelle ils ont autorité et les forces qui nous gouvernent, les forces surnaturelles qui nous gouvernent. Donc le roi est finalement un ritualiste, c'est un spécialiste des rituels et c'est celui qui fait l'intermédiaire. Alors je dis roi parce que c'est un mot qu'on a beaucoup employé.
Mais vous parlez de plusieurs personne importante, de plusieurs rois, ça veut dire qu'on n'a pas non plus un monarque absolu, comme on peut en trouver par exemple en Europe, il y a plusieurs rois.
Absolument, absolument. Et effectivement, les premières réflexions un peu synthétiques qu'on a développées sur la façon dont ce secteur-là était dirigé politiquement, en partant de ces fameux glyphes emblèmes dont on a des dizaines en réalité sur un territoire. Bon, le monde maya, c'est du nord au sud, c'est à peu près 300 000 km², c'est-à-dire la taille de l'Allemagne, grosso modo. Mais quand on parle de la zone où l'écriture a été la plus développée, c'est-à-dire les basses terres centrales, là, vous êtes à peu près à 100 000 km², et là, vous avez des dizaines et des dizaines de glyphes emblèmes, et vous avez des dizaines et des dizaines de représentations de personnages importants dans chacun des grands sites qui se trouvent dans ce secteur-là. Donc, l'idée qu'on a eue au point de départ, quand on a commencé à essayer d'avoir une vision synthétique des choses, c'était qu'on avait en réalité un système de cité-État. C'est-à-dire qu'il y avait des sites qui étaient un peu plus importants que d'autres, là où on a le maximum de représentation des gens qui ont le pouvoir, et autour des territoires périphériques qui reconnaissaient d'une façon ou d'une autre l'autorité du personnage central de la capitale, en définitive. Donc, le modèle qu'on a eu tout de suite à transposer, c'était le modèle de la cité-État. Il y a une petite trentaine d'années, quand on essayait de présenter le monde maya, on disait finalement, tout ça, c'est un système de cité-État. Et on a des équivalents dans l'ancien monde, par exemple, ou d'ailleurs beaucoup plus loin. Mais en réalité, en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques sites qui, quand même, avaient eu des prétentions à être plus importants que d'autres.
Plus hégémoniques, enfin dominantes.
Exactement. C'est quelque chose de type hégémonique. C'est bien que vous utilisiez ce terme parce que une des caractéristiques du monde maya dans son aspect politique, c'est que c'est assez peu territorial. Les entités qui existent, c'est quelque chose qui est plus de type hégémonique. Autrement dit, on supervise des populations, on ne supervise pas des territoires forcément qui sont très marqués. Une question importante, c'est l'absence en définitive de marquages réels.
Il n'y a pas de frontières.
De frontières, exactement. on a cette difficulté à voir qu'il aurait pu y avoir des frontières, et il n'y en a pas. Il y a des frontières naturelles, bien entendu. À Tikal, qui est un des plus grands sites, vous avez, ou à Calakmul, qui est un autre des très grands sites, vous avez sur certaines franges de la capitale des très grandes étendues d'eau, des grands marécages, qu'on appelle des bajos, qui sont assez infranchissables, et ça vous fait évidemment une frontière naturelle. Mais des frontières construites, il y en a quelques-unes, hein, bien entendu, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, donc ça, c'est assez fondamental à comprendre. Oui. C'est le modèle d'organisation spatiale des Mayas est profondément différent.
Alors, c'est en fait une autorité de type hégémonique, et les populations reconnaissent l'autorité d'un chef par une espèce de relation personnelle. On fait allégeance à tel ou tel dirigeant, qui a évidemment son siège quelque part, et qui va diriger, qui va prélever des impôts, qui
va... Ça veut dire que ce dirigeant-là peut être situé géographiquement plus loin qu'un autre dirigeant qui est plus proche de l'endroit où j'habite.
Absolument. Il y a un enchevêtrement, effectivement, spatial des choses, qui fait que parfois c'est un peu plus compliqué à comprendre.
Ça peut sembler un peu anarchique comme fonctionnement.
Non, parce que c'est vraiment, effectivement, la relation personnelle. Les populations se réfèrent à un dirigeant qu'ils reconnaissent comme leader, si vous voulez. Et je crois personnellement, en tout cas, c'est pas des choses qui ont été très, très développées. Il y a dans les éléments du monde maya classique quelque chose de tout à fait central, c'est le temple pyramide. Et le temple pyramide, oui, il peut y en avoir plusieurs, bien entendu, au même endroit, mais le temple pyramide, à un moment donné, c'est l'endroit où on enterre un roi mort. Et il y a un phénomène qui est extrêmement important dans l'exercice du pouvoir et dans la perpétuation du pouvoir, c'est l'ancestralisation. Les rois morts sont des ancêtres qu'on reconnaît, dont on assure le culte, d'ailleurs. La vie religieuse tourne autour des hommages qui sont faits aux ancêtres. Et d'une certaine façon, on pourrait considérer que la pyramide, avec son roi ou ses rois enterrés, est le lieu de regroupement de l'entité, de la communauté qui reconnaît ce pouvoir local, parce que, d'une certaine façon, les populations adoptent comme ancêtre commun le roi mort. Le roi mort devient une espèce de référence pour tout le monde. Bien entendu, vous avez des ancêtres au niveau familial aussi.
Oui.
Dans un groupe familial qui a habité pendant un certain temps à un certain endroit, les ancêtres proprement familiaux sont aussi enterrés de façon différente en général, et ils font l'objet d'un culte spécifique. Mmh. Voilà.
Alors, on a bien compris à ce stade que donc, les Mayas fonctionnaient sur ce système de cité-État.
Alors là, il faut effectivement nuancer.
Oui.
Parce que justement, on s'est rendu compte depuis que cette image initiale, qu'un certain nombre de sites avaient eu tendance à lancer des opérations hégémoniques au-delà même, et donc prendre le pas sur des cités-États qui font allégeance.
Et alors, on peut, grâce à de nouveaux outils technologiques, avoir une réalité en fait très précise de ce rapport de force entre les cités.
Ce que les outils les plus récents ont montré, c'est effectivement que on pouvait avoir une image beaucoup plus détaillée de la réalité. Parce que, en tout cas, pour la partie des basses terres centrales, celle où on a ce maximum de manifestations, on a un couvert végétal de forêt tropicale. Donc, vous ne pouvez pas faire de photo aérienne. Mmh. Pour avoir une idée de la taille d'un site, de son extension, de ses relations avec l'extérieur, il faut faire de la reconnaissance pédestre. Et tout se fait à pied.
Donc ça prend du temps.
Et ça prend des plombes. ça prend un temps fou. Et on a peut-être que des images partielles. La technologie à laquelle vous faites allusion, c'est effectivement l'introduction du LIDAR dans ces régions-là.
Alors, ouais, le LIDAR, c'est quoi ? C'est un système d'imagerie hyper sophistiqué ?
C'est un système d'ondes lumineuses par laser, qui sont bombardés depuis un avion qui survole les zones. Ça vous donne une image de ce qui existe au sol.
Précis.
Donc, vous avez finalement une image de la configuration des sols que vous pouvez ensuite manipuler, bien entendu, avec toutes sortes de logiciels pour les voir de façon différente.
On peut les reconstituer en 3D, par exemple.
Par exemple, vous pouvez parfaitement faire ou bien des vues diagonales ou des choses comme ça. Et ça vous donne effectivement une image très développée. Alors ça, c'est un point important parce que ça nous permet d'avoir sur ce qui existe réellement au sol, une image bien plus complète et bien plus détaillée. Je peux vous donner un exemple. Dans les années, au début des années 2010, on a, côté français, on a lancé un projet au Guatemala dans un site qui s'appelle Nachtoun, qui est une capitale régionale. Ça, on le savait depuis les années 30-40, où les premiers explorateurs étaient passés dans ce site-là. On avait une idée. Bon, en 4 ans, 5 ans, on a couvert à peu près 2 km² pour enregistrer ce qui avait déjà été pré-enregistré par nos prédécesseurs, d'ailleurs, grâce à quoi on a pu avancer assez vite. Mais enfin, on a récupéré X centaines de structures construites sur ce site-là. Et en 5 ans, le jour où on a fait le LIDAR, on nous a remis un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire l'image finalement de ce qui existe, sur 135 km², pas 2 km². Et ça, ça a été fait en quelques heures.
Ah oui.
Donc
beaucoup plus rapide.
On avait la totalité, non seulement du centre même du site où tout le monde avait travaillé, nous on avait un peu travaillé aussi en périphérie, mais on est allé bien au-delà. Et là, on a vu beaucoup plus de choses sur la façon dont on pouvait avoir des idées sur l'organisation politique.
Donc en fait, cette technologie a permis de confirmer plusieurs intuitions qu'on avait sur le monde maya, notamment que c'était des cités qui étaient pour certaines beaucoup plus vastes qu'on ne pensait, qui étaient, donc certaines étaient plus hégémoniques que d'autres.
On a amélioré la vision des plus grands sites, bien entendu. Bon, les recherches antérieures, comme je le disais tout à l'heure, avaient montré qu'il y avait au moins 2 sites qui avaient occupé des places tout à fait exceptionnelles, qui sont Tikal au Guatemala et Calakmul au Mexique, et que ces 2 sites, d'ailleurs, avaient été en rivalité très forte et qu'ils s'étaient battus entre eux, mais qu'ils avaient cherché à contrôler d'autres sites mineurs, récupérant effectivement le contrôle d'un certain nombre de ces sites voisins, plus ou moins voisins. Mais le LIDAR, lui, on élargit la vision de ces plus grands sites. J'en ai cité que 2, mais il y en a pas mal d'autres. Mais en même temps, on voit d'autres éléments qu'on ne voyait pas jusque-là, ou qu'on voyait mal. Par exemple, un des éléments importants des apports du LIDAR, c'est la connectivité entre les différents groupes d'habitats. Très souvent, autour des capitales, et ça existe depuis très longtemps en réalité, dans l'histoire de la civilisation maya, les zones principales se connectaient avec des zones secondaires. Mmh. Et cela à travers des chaussées construites qui permettaient d'aplanir. Alors, il n'y a pas de moyen de transport dans ces civilisations-là, on se déplace à pied. Mais quand vous avez des grands marécages à traverser, par exemple, si on construit par-dessus une chaussée, ou quand vous avez des reliefs à surmonter, et que vous avez une chaussée qui vous conduit directement à l'endroit où vous voulez aller, vous gagnez beaucoup de temps. Et ça, c'est des instruments effectivement qui nous montrent les relations privilégiées entre un centre capital, si vous voulez, et des centres secondaires qui sont rattachés à ce centre principal. C'est à Nachtoun, par exemple, c'est très clair que assez tôt dans la chronologie, les dirigeants ont mis en place de grandes chaussées qui vont sur des sites qu'on doit appeler secondaires, parce qu'effectivement, ils sont moins importants, parce qu'ils n'ont pas forcément d'inscription, mais c'est quand même des éléments qui comptent énormément dans l'organisation sociopolitique. Et ça s'est mis en place très tôt, et ça a été maintenu ensuite, bien entendu.
Et avant l'utilisation du LIDAR, on ne pouvait pas soupçonner cette connectivité.
On en avait quelques-unes. Parce qu'à pied, on en avait cheminé. Mais ce n'est pas toujours des choses très faciles à voir quand on est sur le terrain, au milieu de la forêt. On aperçoit parfois des éléments qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, il faut les suivre dans le bon sens pour être sûr qu'il s'agit d'une chaussée. Le LIDAR, lui, vous a montré des trajets tout de suite et des trajets en général rectilignes qui économisent énormément les transports et surtout permettent cette relation entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés.
Sur cet espace, l'organisation de cet espace politique, est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'archipel avec des grosses mégalopoles
Oui, ça pourrait être une image, tout à fait, effectivement. Il faut quand même aussi avoir une idée en tête assez précise et qui change un tout petit peu la donne, c'est qu'on est sur 6 siècles. Donc, il y a une dynamique, si vous voulez, et tout n'a pas été installé une première fois et maintenu pendant 6 siècles. Tout a bougé. Et donc, on a une histoire politique qui est en constante évolution. Donc, ce qui se passe, il faut le resituer. C'est une des difficultés du Lidar, parce que le Lidar, c'est bien beau, ça vous donne une image. Une image des paysages construits. Des paysages en général, et en particulier des paysages construits. Ces paysages construits, ils n'ont pas été à la même époque, ils n'ont pas été utilisés tout le temps à la même époque. 6 siècles, c'est très long à l'échelle d'une vie politique.
Donc il faut aller retrouver l'époque.
Le Lidar ne veut rien dire tant que vous n'êtes pas allé vérifier sur le terrain à quelle époque ça se situe, qu'est-ce que ça connecte, par exemple pour les chaussées, qu'est-ce qui est contemporain de telle autre chose ? Et à ce moment-là, il faut refaire par derrière l'obtention d'une image globale qui confond. C'est comme une espèce de mise à plat sur un seul calque de 6 ou 7 calques, si vous voulez. Hein. En informatique, on dirait ça, hein, en imagerie informatique. Donc, vous avez une superposition de choses qu'il faut ensuite aller décrypter. Et la seule façon de le faire... Alors, il y a des marqueurs éventuels de période, par exemple, toujours pour revenir à Nachtoun, on sait très bien qu'à une certaine époque, qui on appellera le préclassique, les populations construisaient plutôt tel type de bâtiment et qu'ensuite ils construisent d'autres types de bâtiments et que l'arrangement... Mais tant que vous n'avez pas une idée très précise de la chronologie de ces marqueurs visuels, morphologiques, vous pataugez complètement parce que vous mélangez tout. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, mais qui demande maintenant des décennies de travail.
On n'a pas parlé d'une autre singularité qui constitue cette organisation sociopolitique des Mayas. On parle d'une organisation spatiale urbaine de l'espace en deux. C'est une organisation dualiste de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, ben c'est gentil de poser cette question parce que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement puisque j'ai eu l'occasion directement, en ce qui me concerne, de travailler là-dessus. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de communautés, de sites, sur lesquels on a l'assurance qu'il n'y avait pas forcément un seul et même pouvoir, un individu ou une famille qui dirigeait tout, mais que les communautés pouvaient être constituées de deux entités qui représentaient la moitié de chacun des... Alors ça, c'est quelque chose qui est connu dans l'ensemble du continent américain, en réalité, depuis assez longtemps.
C'est propre au continent.
Ça n'est pas propre au continent, parce qu'il existe des situations un tout petit peu équivalentes ailleurs, mais par exemple, à l'intérieur du continent américain, un des premiers à avoir beaucoup développé l'idée de cette organisation par moitié, c'est Lévi-Strauss, et qui travaillait en Amazonie à l'époque. Donc, on est très loin du monde maya. Donc, on a affaire à une façon d'organiser les entités, les communautés, ou celles-ci, c'est vrai aussi dans les Andes. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui existe dans plusieurs parties du monde maya. Et c'est quelque chose qu'on avait un tout petit peu mis de côté pour aborder les Mayas, sous prétexte que cette organisation de type dualiste ou par moitié, c'était finalement une espèce de pré-organisation politique, de quelque chose qui concernerait des populations de type plus primitif.
D'accord.
Or, en réalité, on a un certain nombre de cas, dans le monde maya en particulier, d'organisations de type duel, où vous avez deux parties, par exemple une partie haute, une partie basse, une partie du côté du soleil levant, une partie du soleil couchant.
Et ça veut dire qu'il y a aussi deux dirigeants sur un même site ?
Alors, c'est ça, effectivement. C'est-à-dire que les communautés sont divisées en deux, et que le fonctionnement d'une communauté en tant que tout et l'issue de négociations entre les deux parties. Si vous voulez. Donc, on a eu l'occasion avec un collègue de beaucoup vérifier ça sur un site du nord, alors là de la péninsule du Yucatan, donc la partie des basses terres du nord, dans cette région qu'on appelle le Pouc, la région des collines du nord. Et on a, sur 200 ans, la succession de trois systèmes, mais qui sont tous les trois dualistes. Au départ, on a une place centrale avec des salons qui sont des lieux de réunion des familles, et tout ça autour d'une place centrale. Mais cette place centrale, elle est coupée en deux par une série de plateformes. Donc vous avez une partie nord, une partie sud. À quoi bon avoir cette espèce de coupure centrale ?
Oui, ça sert à quoi ?
Et tout de suite, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne serait pas finalement face à un système où on a deux moitiés de la communauté, une moitié nord, une moitié sud en l'occurrence. Et puis, quelque temps après, la condition politique change, le site en question devient dépendant d'une capitale qui se trouve tout à fait à l'extérieur, et cette capitale met en place des gouverneurs qui sont en partie là pour percevoir l'impôt de ce site qui est devenu donc indépendant de notre... Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe ? C'est qu'il y a successivement, sur trois générations, des séries de gouverneurs, et ils sont toujours deux.
Encore.
Ils sont dans le même bâtiment, représentés là, en l'occurrence, parce qu'il y a des sculptures, il y a des portraits de ces gens-là, hein, sculptés. Et on voit d'abord, ils sont accompagnés d'un peu d'inscriptions, bien entendu. On voit que ces gouverneurs-là fonctionnent pendant trois générations par deux. Pourquoi par deux ? Sinon pour s'adapter à quelque chose qui existait déjà.
Déjà.
Et juste après, ces gens-là disparaissent, probablement parce qu'il n'y a plus l'autorité de ce site extérieur. Et on a la suite de l'évolution du site, où on a un grand bâtiment central avec deux ailes, une aile nord, une aile sud, qui ne sont pas en communication. Mais c'est vraiment le bâtiment principal, avec des hôtels qui montrent qu'il y a du pouvoir dans cet endroit-là. Bon, très bien. Pourquoi sont-ils divisés en deux ? Quand on regarde la totalité à ce moment-là de ce qui existe dans le site, on se rend compte qu'en réalité, il y a deux groupes majeurs, un au nord, un au sud. Celui du nord, il regarde vers l'aile nord du bâtiment. Celui du sud, il regarde vers l'aile sud du bâtiment. Et il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de famille qui supervise la totalité du système. Donc on est probablement là, nous, à nouveau, dans un système dualiste qui a pris une autre forme. C'est plus la même forme qu'avant, mais néanmoins qui en... Mais alors bon, ce système-là, en réalité, il existe ailleurs dans le monde maya. Simplement, on ne l'a pas beaucoup cherché, donc on ne l'a pas beaucoup trouvé.
Et
on le trouve ensuite, à l'époque post-classique, donc après cette fameuse période dont je vous parlais, dans les hautes terres du Guatemala, par exemple, on a toute une série de grands sites qui sont systématiquement organisé en deux.
Donc c'est pas ce modèle d'organisation dualiste n'est pas, vous disiez qu'on pensait au début que c'était lié à des civilisations un peu primitives. Non,
quelque chose qui peut-être est né très tôt dans des civilisations qui étaient plus simples.
Mais ça a perduré.
Mais ça a complètement perduré. Et c'est pas simplement une affaire de système organisationnel, c'est une affaire aussi de pensée du monde.
Et oui.
Ça renvoie finalement à des conceptions fondamentales, idéologiques, des populations qui adoptent cette façon-là de voir les choses, entre le chaud et le froid, entre la lumière et l'obscurité.
Le nord et le sud.
C'est une pensée universelle d'ailleurs, c'est pas spécifiquement maya bien entendu, mais ça veut dire que les systèmes de pensée se traduisent politiquement. Je crois que pour ce qui concerne les Mayas de l'époque classique, qui ont tous ces attributs qu'on leur donne de civilisation extrêmement développée, avec des systèmes extrêmement complexes, sont encore plus complexes, puisque à côté de ces familles régnantes, par exemple, qui s'imposent dans certains cas, il y a aussi l'existence de ces systèmes doubles, en moitié. Et peut-être même à l'intérieur des familles régnantes, en réalité, il n'est pas totalement impossible qu'il y ait eu aussi cette partition avec quelqu'un. Parce que dans les systèmes dualistes, ce ne sont pas des systèmes égalitaires. quand vous avez deux moitiés, en général, il y a toujours une moitié qui domine l'autre. Même si les décisions communes sont toujours prises à la suite d'une négociation entre les deux moitiés. Et les deux sont considérées comme étant à peu près équivalentes. Mais malgré tout, et c'est ce qu'on voit sur notre site à nous, en tout cas au début, et peut-être même à la fin, il y a une des deux moitiés qui semble toutefois un tout petit peu plus importante que l'autre moitié.
Vous disiez tout à l'heure que la civilisation maya, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas disparu aujourd'hui. Il y a encore quelques milliers,
millions
de personnes.
Entre les différents pays, le Mexique d'un côté, où effectivement la pratique de la langue a reculé, et surtout le Guatemala, on peut considérer qu'il y a au moins 8 millions d'individus qui parlent des langues mayas encore aujourd'hui et qui pensent maya. C'est ça surtout.
En tout cas, c'est une façon de penser le monde qui est profondément différent de notre modèle, par exemple, européen, occidental. Et ça, c'est important de souligner.
Oui, on peut trouver éventuellement quelques analogies. À un certain moment, un certain nombre de collègues ont beaucoup parlé de l'organisation de type médiéval des civilisations précolombiennes, en tout cas celles qui sont dans cette région-là. Bon, ça peut aider un petit peu à un certain moment de faire de l'analogie. Mais
médiéval dans quel sens
Par exemple, avec des systèmes de seigneurie, si vous voulez, et finalement un suzerain supérieur. Voilà, ouais. C'est ça, avec de la vassalité. Oui, d'une certaine façon, pourquoi pas. Mais on n'a pas forcément besoin. Ça peut être intéressant pour faire avancer les hypothèses de recherche, mais en même temps, il ne faut pas s'enfermer dans l'analogie parce qu'on fait de l'européanocentrisme à ce moment-là.
Oui, il ne faut pas tomber dans ce travers. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, j'imagine, sur
je vous ai parlé tout à l'heure du lidar. Le lidar, c'est une image, mais c'est une image muette, en réalité, parce qu'on ne sait pas l'interpréter. Donc, étant donné les quantités de vestiges qu'on a retrouvés, on parle évidemment de milliers de choses. Et par ailleurs, on a une image qui nous permet de dire aussi que les populations ont été beaucoup plus nombreuses dans le temps que ce qu'on imaginait au départ. Oui. Donc tout ça, ça nous pousse à aller chercher. Et le point de départ de tout pour comprendre les choses et avoir des idées claires, c'est quand même la chronologie. Parce que si vous mettez à confondre 6 siècles entre eux, là vous partez mal.
Dominique Michelet, merci beaucoup.
Je suis très content d'avoir essayé d'expliquer et j'espère que j'aurai été compris. Merci.
Merci à vous. Je renvoie les auditeurs qui sont intéressés par le sujet aux livres, aux publications que vous avez écrites. Est-ce que vous voulez en mentionner une ou deux en particulier ?
Bon, écoutez, en français, pas beaucoup parce que on travaille dans des pays hispanophones et par exemple, là, actuellement, on a ce que je vous ai expliqué sur le dualisme fait l'objet du deuxième tome d'une monographie, mais qui va être publié à Mexico. Et cette même idée de l'organisation dualiste a été retenu pour être publié, mais là, à Oxford University Press, aux États-Unis, dans un livre général. Il y a un livre qui va sortir en 2026, c'est sûr, qui concerne les connaissances sur les différents régimes politiques mayas de l'époque classique fondamentalement. Côté français, je dois dire qu'il y a peu de choses qui ont été publiées. Lisez le livre de Chloé Andrieux sur la perpétuation des civilisations mayas, publié chez aux éditions Alary. Et puis, il y a quelques années, le Mexique nous avait proposé une exposition qui a eu lieu au musée du Quai Branly sur les Mayas, qui a donné lieu à un grand catalogue que j'avais coordonné à ce moment-là. Ce catalogue est très riche, il est très illustré, il est très beau. Il est peut-être épuisé, mais pas tout à fait. En tout cas, on le trouve encore sur les réseaux.
Bon, et en ce qui concerne vos publications, je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui sont hispanophones ou anglophones qui pourront les trouver. Merci.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.